Bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Vous savez que nous sommes tenus par l'heure de l'enregistrement, ce qui vous permet d'écouter à nouveau, si ça vous intéresse, ces cours sur le site internet du collège et sur France Culture. La semaine passée, je vous ai indiqué les similitudes entre ce qu'on appelle le petit véhicule et le grand véhicule, et comment psychologiquement on s'expliquait maintenant le passage de l'un à l'autre. Et je vous ai parlé du rôle important que jouaient les découvertes de manuscrits faites depuis 20 ans en Afghanistan et au Pakistan. Alors je vais me permettre de revenir un petit peu sur ces manuscrits. C'est un sujet aride, mais c'est capital. Ce n'est pas un sujet nouveau, puisque l'an passé, à peu près à cette époque, il y a eu un florilège de conférences sur ce sujet à Paris par mes collègues Colette Cox, Ingo Straour et Harry Falk. Et puis M. Salomon était passé un peu avant aussi pour en parler. Donc c'est un sujet que les spécialistes connaissent. Mais peu d'entre vous ont eu accès aux salles de l'École des hautes études où ces conférences ont eu lieu. Et puis, comme moi, je ne suis pas l'éditeur, je peux avoir un avis un peu différent. Alors, il y a eu, autant que je me souvienne, 6 découvertes de manuscrits, plus 2 manuscrits dont on ne sait pas d'où ils proviennent. Alors, ces découvertes, je vais vous les donner d'ouest en est, ont eu lieu à Bamiyan, c'est-à-dire au milieu de la route ancienne qui va de Peshawar à Bactre. Bactre est ici, là où il y avait les grottes des grands Bouddhas. Je reviendrai là-dessus. Elles ont eu lieu à Gilgit, qui doit se trouver quelque part par ici, qui est sur la route qui mène à Yarkand, en passant par le Hunza, qui est une route extrêmement difficile. J'ai calculé qu'il fallait, dans l'Antiquité, à peu près 6 mois pour la faire à pied, et certains passages ne pouvaient être faits qu'à pied. Ça en fait 2. Une troisième série de découvertes vient de la région de Hadda. Maintenant, les gens qui publient sont un peu moins affirmatifs. Ils viennent peut-être du Bajaur. Il y a eu 2 séries. De même, il y a eu 2 séries dans le Bajaur. Et tout ceci est arrivé chez les antiquaires de Peshawar. Si vous voulez une carte du Gandhara, qui pour l'orthographe est un peu bizarre. Tout est arrivé chez les antiquaires de Peshawar, ici. Les découvertes de manuscrits de Bamiyan et de Gilgit sont bien en dehors de la carte. La découverte des manuscrits du British Museum en Gandhari, dont je vais reparler, est censée avoir lieu ici, mais on n'en sait rien. Pour le Bajaur, c'est un peu plus sûr. Alors, quelles sont ces collections de manuscrits? Je vais d'abord prendre celles qui sont, si j'ose dire, sur le plan doctrinal, moins importantes, qui sont très importantes pour les bouddhologues, mais qui ne changent pas grand-chose. Ce sont celles de Bamiyan et celles de Gilgit. Celles de Gilgit, ce sont 3 manuscrits qui sont apparus sur le marché des antiquités américains et londoniens et qui ont été partagés entre 3 savants. Un manuscrit en plusieurs lots, mais 3 savants s'en occupent. Un manuscrit est un manuscrit du Divya Vadana, du Dirga Agama sanskrit, c'est-à-dire une des corbeilles de sutra, c'est la corbeille des longs sutras en sanskrit, datant du 6e, 7e siècle. Et il y a quelques années, M. Yensuve Hartmann était venu vous dire ce que cela apportait. à notre connaissance du bouddhisme ancien. Ce sont des manuscrits, c'est un manuscrit en écriture brahmi du 6e siècle, 300 feuilles, hein, 300 feuilles, il y en a quelques-unes qui sont perdues, et c'est en cours de publication. L'autre est un manuscrit contenant une dharani, c'est-à-dire une formule magique protectrice très connue, l'Ushnisha Vijnaya dharani, la dharani de la victoire du sommet de la tête du Bouddha, qui est en cours d'édition par notre collègue Grégory Chopin, qui est venu ici assez souvent, mais qui n'en a parlé. Puis il y a un troisième texte dont, pour l'instant, on ignore à peu près tout, mais dont j'ai vu des photos qui, quand il n'était pas encore déplié, ressemblait à une boule de palme. Ce sont des manuscrits sur feuilles de palmier, comme les manuscrits indiens traditionnels. La découverte des grottes de Bamiyan, ce sont des manuscrits entiers. La découverte de Bamiyan, c'est quelque chose de très différent. Ça, on sait que ça a été acheté à Peshawar d'abord, puis transporté à Londres où ça a été revendu. On a quelques indications sur l'endroit où ça a été trouvé. Vous savez que Bamiyan, ce sont des falaises de Leus, de conglomérats qui sont creusées de grottes. Tout ceci aurait été trouvé dans une grotte qui se trouve juste au pied de l'hôtel principal de Bamiyan, ce qui m'en fait un peu douter. On est obligé de douter de ces localisations pour deux raisons. La première, c'est que la localisation de Bamiyan, on la connaît par un photographe japonais qui est passé 10 ans plus tard à Bamiyan et à qui quelqu'un a dit que ce serait dans cette grotte que les choses auraient été trouvées. Déjà, a priori, c'est une chose qui est un peu douteuse, mais surtout, on ne sait pas si le photographe japonais posait des questions, ce qui change tout entre une information qui arrive comme cela et une information que l'on a recherchée. Et on ne sait pas si son informateur a été récompensé financièrement ou pas, ce qui change tout également. Donc, il vaut mieux considérer que ces manuscrits ont été trouvés dans une grotte de Bamiyan ou dans plusieurs grottes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont arrivés à Peshawar dans un lot et que dans ce lot, il y avait également des manuscrits provenant de Bamiyan, mais qui étaient connus depuis 1930 et pour un autre depuis 1965. Et qui étaient des manuscrits du musée de Kaboul provenant du pillage du musée de Kaboul. Et donc, cela pose un certain nombre de questions sur l'origine de la collection. Il peut y avoir eu des choses tout à fait adventices. Ça n'empêche pas qu'on continue à les publier comme les manuscrits de Bamiyan. Ça correspond à peu près à ce qu'on sait sur Bamiyan, même date que les manuscrits de Gilgit, pour l'essentiel, 6e, 7e siècle, même écriture, même sanskrit, mais là, on a non pas des livres entiers, mais des fragments dépareillés. C'est apparemment du rebut qui a été laissé dans un coin de grotte. Les gens, quand on regarde, par exemple, excusez-moi, je reviens un peu en avant, il y a eu à Gilgit 2 découvertes de manuscrits avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'on sait à peu près comment elles ont été faites. Et l'on sait que tous ces manuscrits auraient disparu si un officier britannique ne s'en était pas aperçu. Les habitants du village proche de l'endroit de la trouvaille, en fait, utilisaient les plaques de bois qui couvraient et protégeaient les manuscrits, comme dans les manuscrits tibétains, pour faire du feu, et ils utilisaient les feuilles de palmier pour les toits. Et donc, à Bamiyan, c'est à peu près la même chose. Il n'y a aucune plaque de bois de couverture. Or, ces manuscrits en feuilles de palmier, on sait qu'ils étaient entre deux tablettes de bois, qui est parfois, très décoré parfois, comme pour les manuscrits tibétains, ou tout simplement plate, mais qui servent également à tenir l'étiquette qui donne le titre du manuscrit. Il n'y en avait aucune dans la trouvaille de Bamiyan. Il n'y avait pas de manuscrit entier, simplement des feuillets épars, et il est possible qu'on ait le reste du pillage très ancien d'une bibliothèque dont les restes ont servi à faire les toits des villages de Bamiyan, parce qu'il y a quand même quelques maisons construites à Bamiyan. Il n'y a pas que des habitations troglodytes et dont les plaques de bois ont servi à allumer le feu. Parmi ces manuscrits relativement tardifs, dont certains sont clairement des manuscrits de textes mayaniques, ce qui n'a rien d'étonnant, il y a quelques textes anciens, écrits non plus sur feuilles de palmier, mais sur écorce de bouleau. Je reviendrai sur ce matériel. Et ces textes anciens contiennent deux fragments de textes mayaniques, le Mahaparinirvana Sutra et le Bhadrakalpika Sutra. Il y a également une inscription sur cuivre très intéressante et qui manifestement ne vient pas de Bamiyan et qui nomme trois rois Huns du 5e, 6e siècle. Donc c'est un matériel très, très, très disparate qui a été acquis par un armateur norvégien, M. Skøyen, qui faisait collection de manuscrits. Et grâce à notre collègue d'Oslo, M. Jens Brarvig, qui est un spécialiste du bouddhisme mayanique, trois volumes ont été édités déjà, qui donnent l'essentiel des choses lisibles. Et M. Brarvig ne les a pas édités tout seul. Il a réuni un ensemble de savants internationaux, principalement allemands et japonais, qui ont d'abord identifié les textes, les ont lus, et les textes sont publiés. Ce sont des textes très courts, puisqu'on a des fragments avec le commentaire nécessaire. Depuis, il semble que les manuscrits étaient revendus par M. Skøyen, puisque la publication de ces manuscrits, évidemment, leur a donné beaucoup plus de valeur. À partir du moment où on sait ce que c'est, ça donne beaucoup plus de valeur. C'est le même problème que les gens qui publient des pièces de sculpture qui se trouvent chez les antiquaires ont. Une fois que c'est publié, c'est authentifié et ça double ou ça triple la valeur. C'est pour ça que les antiquaires, parfois, sont très gentils avec nous, quand ils ont besoin de nous. Mais ça ne les force pas à donner leur source d'approvisionnement. Alors, ceci a été très bien fait. C'est une coopération volontaire entre, par exemple, M. Hartmann, deux ou trois savants allemands, beaucoup de savants japonais. Pourquoi ? Parce que l'identification de ces textes repose sur l'utilisation du taisho, du canon bouddhique chinois, où il y a de bons index faits par les japonais sanskrit chinois. Et à partir du moment où on a identifié, on a lu un mot sanskrit, on peut essayer de repérer dans le taisho où ce mot apparaît en transcription ou en traduction chinoise. À partir de là, on voit s'il y a des phrases dans le canon bouddhique chinois ou dans le texte qu'on a trouvé du canon bouddhique chinois, s'il y a des phrases qui correspondent à peu près à ce qu'on lit en sanskrit, et on arrive à restituer et on arrive à trouver le texte. Alors, l'avantage de ces découvertes de Bamiyan pour les manuscrits du 6e, 7e siècle, c'est que cela nous donne les versions les plus anciennes de sutras qui, pour certains, avaient complètement disparu en sanskrit et qui sont à peu près datées par la paléographie, à peu près, c'est-à-dire à deux siècles près. Je reviendrai tout à l'heure sur les datations au carbone 14. Ceci est tout à fait exemplaire et évidemment, ça a valu des ennuis à M. Brarvig, des ennuis très très graves, parce qu'on l'a accusé d'avoir pillé le patrimoine afghan et il est passé devant une espèce de tribunal de son université. Il a fallu quand même qu'un certain nombre de gens écrivent des lettres à sa défense en disant que de toute façon, ce n'était pas lui qui avait pillé, que de toute façon, c'était sur le marché aux antiquités et que s'il ne s'était pas occupé de le faire publier, ça serait sans doute complètement disparu maintenant. Mais il y a peu de gens qui ont écrit des lettres. C'est là qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de savants n'ont pas beaucoup de courage. Enfin, ça, c'est un autre problème. On attend un quatrième volume qui est en préparation. Et dans le troisième volume, vous avez déjà quelques textes en karoshti qui ne sont pas d'une importance extrême, sauf que l'on a des textes en karoshti du 2e ou du 3e siècle avec des fragments du Mahaparinirvana Sutra et du Bhadrakalpika Sutra. Ces fragments ne sont malheureusement pas assez longs pour que l'on voit s'il y a des différences énormes avec les textes tels qu'ils sont édités, puisque le Mahaparinirvana Sutra a été également très bien édité par Waldschmidt à partir de manuscrits de Turfan. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les variations, parce que ça permet de voir comment le texte s'est constitué et comment il a été transmis. Les autres découvertes sont plus intéressantes pour l'histoire du bouddhisme. Alors, il y a d'abord, et ça a été la première, la découverte des manuscrits du British Museum, qui ont été trouvés dans chez un antiquaire de Peshawar et dont la première le premier éditeur, si j'ose dire, la première personne qui a signalé l'existence de ces manuscrits et qui a donné les deux photos que vous voyez ici, et M. Sadakata, qui est un savant japonais très discret, francophone, parce qu'il a fait une partie de ses études à Paris, je ne l'ai jamais rencontré. Et son article japonais de 92 a été repris en 96 dans le journal asiatique, ça s'appelle « Inscription Karoshti provenant du marché aux antiquités de Peshawar ». Il a identifié l'inscription que vous voyez ici autour du pot. Il a identifié l'origine du pot, l'origine religieuse, qui est un pot qui appartenait à un monastère relevant de l'école Dharmaguptaka. Et puis, c'est arrivé au British Museum, où un riche donateur les a déposés ou donnés, c'est pas très clair. Et il y a eu une série d'articles préliminaires et un grand livre préliminaire qui est un très bon livre, publié à Seattle et à Londres en même temps, en 99, par M. Salomon, Ancient Buddhist Scrolls of Gandhara, qui est tout à fait excellent. Voilà donc à quoi ressemblaient les manuscrits que vous voyez ici lorsqu'ils sont sortis du pot. Et si vous voulez voir le pot lui-même, il y en avait quelques-uns. Ce genre de pot, c'est une urne globulaire que vous pouvez trouver sur n'importe quel marché indien, pakistanais ou ouzbek encore maintenant. Ce sont des vases ronds d'environ 30 cm de haut et qui servent à contenir de l'eau. Et d'ailleurs, l'inscription commence souvent par ce vase à eau. Et vous voyez, c'est une embouchure assez large, c'est une embouchure où on peut passer le bras. Hein. Et lorsqu'on met de l'eau dedans, ensuite, on met un petit couvercle qui peut avoir une forme tout à fait différente selon les endroits et qui empêche donc les insectes de se mettre dans l'eau pure. L'eau pure étant une obsession des moines, puisque l'un des articles qu'on leur remet ou qu'ils sont censés posséder lors de l'ordination est un filtre à eau, pour empêcher que les insectes ne tombent dans l'eau et ne se noient. L'obsession de la vie des insectes n'est pas très grande chez les bouddhistes, il faut quand même éviter de les tuer. Elle est très très grande chez les Jains. Chez les Jains, c'est tout à fait. Donc voilà à peu près à quoi ressemblaient ces fragments. Alors ces fragments sont en écorce de bouleau. Et alors Monsieur Salomon et les experts du British Museum ont fait un travail tout à fait remarquable. Dont je vais créditer Salomon puisque les restaurateurs ont été crédités. Il faut comprendre que ce sont des petits rouleaux qui avaient à peu près 15 ou 20 cm de largeur. On les a retirés de ce vase tout à fait discrètement et on les a dépliés, ce qui donne ceci. Ça, c'est un manuscrit du Bajaur. Mais vous voyez à peu près ce que ça donne quand ça a été replié. Et à chaque élément qui manque ici, c'est une dépliure. C'est presque autant un accordéon qu'un rouleau. Mais tout le monde dit que c'est un rouleau. Bon, alors c'est donc un rouleau. Une autre forme de manuscrit sur bouleau, c'est celle-ci. C'est un des manuscrits du Bajaur. C'est également un rouleau et vous voyez qu'il est plié en deux. Quand on trouve un manuscrit dans un stupa, c'est cette forme-là qu'on a, mais en moins large, quelque chose de plié en deux. Alors, il y a un premier travail qui a été un travail absolument extraordinaire, donc de rendre ces rouleaux lisibles. Il y a eu un deuxième travail à faire, c'est de savoir ce que c'était. Et ça, c'est Salomon a immédiatement réussi à identifier un certain nombre de passages, à voir ce que c'était. Et plus extraordinaire encore, il a réussi à trouver de l'argent. Ce sont toujours des donations ou des grants de 3 ou 4 années, pour entreprendre l'édition de ces volumes. Il y en a 4 qui sont parus, le quatrième est là, il y en a un cinquième qui est en préparation, et tout est loin d'être publié. Mais pour faire cela, M. Salomon n'a pas fait exactement comme Brarvig. Salomon a créé à l'université de Seattle, donc dans l'État de Washington, un groupe d'études avec ses étudiants, et ses étudiants passent des doctorats en publiant cela. Donc il y en a actuellement 3 qui sont plus connus, M. Glass qui était là en janvier, et M. Strohr et M. Baums qui étaient à Paris l'an passé à la même époque. Et c'est un travail tout à fait extraordinaire qu'ils ont fait, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est lisible. Hein. Le texte est, si vous regardez ça, quelqu'un qui a un peu l'habitude de la Gandhari, c'est lisible, ça ne pose pas d'énormes problèmes. Ça ne pose pas d'énormes problèmes. Vous voyez que les lettres sont bien séparées. C'est presque pas tout à fait de la calligraphie, mais c'est bien écrit. Et dans l'ensemble, c'est beaucoup plus lisible qu'une inscription karoshti. Alors, il y a évidemment des lettres des passages qui sont un peu plus difficiles. Mais la transcription de l'alphabet karoshti, qui se lit de droite à gauche, comme les écritures sémitiques, puisque c'est un dérivé de l'alphabet araméen, ne pose pas d'énormes problèmes. Mais une fois qu'on a transcrit, on ne comprend rien. Parce que la découverte qui s'est faite, c'est que, à date égale, ces textes, qui sont des textes qui étaient lus non seulement par les moines, mais probablement lus aussi aux fidèles assemblés, ces textes représentent un état de langue beaucoup plus avancé que celui des inscriptions. Et en particulier, tout ce qu'on appelle les consonnes occlusives, c'est-à-dire la série des gutturales K et G, la série des dentales T et D, et la série des labiales P et B. Finalement, lorsque ces occlusives sont entre deux voyelles, elles tendent à disparaître. Et quand elles n'ont pas disparu, c'est qu'elles ont été réétablies par souci étymologique. Et donc, le jeu consiste là encore à identifier certains mots qui ont été conservés sous leur forme ancienne et à trouver le parallèle. Et ce parallèle, c'est soit un parallèle en pali, c'est-à-dire le Theravadine, qui est le canon bouddhique le plus ancien connu et en plus dans la langue la plus archaïque, et soit un parallèle dans le canon bouddhique chinois. Ce qui fait que les élèves de Salomon sont des gens qui font ce que Sylvain Lévy nous disait de faire il y a un peu plus de 100 ans, en disant qu'on ne pouvait faire du bouddhisme qu'avec la connaissance des langues indiennes et du chinois. Sylvain Lévy a ajouté le tibétain. Le tibétain, pour ces textes-là, apparemment, n'a pas beaucoup d'importance, pour une raison simple, c'est que les textes du canon bouddhique traduits en chinois l'ont été traduits de façon beaucoup plus ancienne, 5 ou 6 siècles parfois, avant les traductions tibétaines des mêmes textes sanscrits. Donc les versions anciennes que conserve le canon chinois sont plus utiles. Donc ces jeunes gens ont une formation remarquable, ils ont vécu jusqu'ici depuis une dizaine d'années à force de bourses, et comme l'université française ou américaine ou allemande est très traditionnelle, bien, ils se retrouvent sans emploi après une formation extrêmement poussée et une productivité remarquable. Parce qu'en dehors de l'édition, comme vous l'a dit M. Glass ici même il y a quelques mois, ils ont constitué une base de données et un dictionnaire qui permet de retrouver sur Internet assez rapidement ces manuscrits et toutes les inscriptions dans la mesure où elles sont éditées. Alors, l'autre trouvaille... Pardon. Je reviendrai sur le contenu, vous savez, j'en ai beaucoup à dire. L'autre trouvaille s'est faite... vient aussi de Peshawar. Ce sont des rouleaux des rouleaux également écrits sur écorce de bouleau. Et c'est une collection complète, dite collection Senior, qui est au British Museum et qui est également en cours de publication par les élèves de M. Salomon, qui a immédiatement identifié ce que c'était et qui a réuni les fonds pour qu'on le fasse. C'est ce volume-là qui est là, et vous avez un de ces textes qui est ici. Vous verrez qu'il y a une différence entre ces textes. Et les deux autres collections sont celles du Bajaur, l'une qui est arrivée à Peshawar chez un de mes anciens étudiants, et l'autre qui est également arrivée entre ses mains, mais en trois fragments. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je reviendrai sur le contenu des inscriptions. Vous voyez à quoi ça correspondait. Il y a un gros travail de restauration, mais ceci, ça vous donne une idée de la forme originale dans laquelle ces rouleaux étaient dans les deux pots, hein, puisque pour Signor et pour le British Museum, c'était dans des pots. Ces rouleaux représentent l'enveloppement, enfin l'enroulement d'une feuille de texte en écorce de bouleau écrite des deux côtés. Et ils ont été tous les deux trouvés dans donc, les pots que je vous ai montrés. Ils ne ressemblent pas du tout. Les collections sont très. Donc, ils étaient dans ces pots. Les collections sont différentes. La première collection, celle qui a été découverte dans ce pot, on sait que ça vient de ce pot. Et il est tout à fait clair que ce que l'on a là-dedans, ce sont des manuscrits qui ont servi, qui sont usés et qui ne sont pas complets. Alors, la première étude de ces manuscrits, puisque c'est ainsi que ce sont les premiers à avoir été faits, a montré qu'ils étaient faits de feuilles d'écorce de bouleau, qui n'était pas très grande, environ 40 sur 40. Quand on voulait avoir un rouleau plus long, on collait ici une deuxième feuille et puis une troisième feuille. Pour le Dharmapada Gandhari trouvé à Khotan, on a estimé que la longueur totale du rouleau pouvait être de 5 mètres. Pour les rouleaux que nous avons ici, et ceux qui sont là, certains étaient plus petits, mais la longueur maximum semble d'être d'un mètre cinquante. Et guère plus. Ce qui signifie que pour les lire, probablement, il fallait, et surtout pour les conserver, il fallait les enrouler autour d'un cylindre, un cylindre de bois. Vous pouvez remarquer que ce cylindre de bois n'existe dans aucune des trouvailles que nous avons. Et il n'a pas disparu. Donc, ce sont des restes. L'assemblage des textes du British Museum, la première série, ce sont des textes qui, en eux-mêmes, n'apportent pas grand-chose. De la poésie populaire, comme le sutra de la corne de rhinocéros, des textes qui décrivent les vies antérieures de grands personnages, ce qu'on appelle des avadanas, quelques sutras et un texte d'Abhidharma, c'est-à-dire un texte, disons, de logique bouddhique, et puis ce qu'on appelle un stotra, un texte de louange, un hymne de louange. Donc, mais ceci pose un problème. Bon, on voit très bien que ces textes n'étant pas complets, ayant été lus, on peut comprendre qu'on ait retiré le bâton, qu'on les ait roulés, plutôt que de les jeter à la poubelle, on les ait mis dans un vase et qu'on les ait... et qu'on les ait enterrés comme ça... comme c'est la parole du Bouddha, encore que les sutras et l'Abhidharma ne soient pas la parole du Bouddha, mais en tout cas, comme certains d'entre nous, on a du mal à jeter les livres. Reste à les dater. D'abord, reste à savoir si, pour les mettre au rebut, on a utilisé un pot de récupération, ou si on a fait faire un pot tout neuf. Ça a une certaine importance parce que seul le pot, l'inscription du vase, indique que ce sont des Dharmaguptaka, une des écoles bouddhiques, à qui très souvent on attribue la propagation des textes bouddhiques en Chine. Mais ça pose sur la datation. Il y a une datation également en fonction d'un personnage historique qui est nommé dans un avadana. Et voyez comment fonctionnent les historiens. Salomon a reconnu ce personnage qui s'appelle Gionica, qui est daté par les monnaies des environs de 20 de notre ère, 20-25 de notre ère. On peut discuter à 10 ans près. Et comme la paléographie de l'inscription du pot et celle des manuscrits le permet, il date donc la collection du début du 1er siècle de notre ère. À quoi Falk a fait remarquer que si Gionica était le personnage d'un récit mythique d'un avadana, c'est sans doute qu'il était mort depuis assez longtemps et que la datation devait être reprise. Cette datation, on n'a pas, pour l'instant, on en est là. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est en fait un texte des textes paléographiquement. On voit très bien que ce sont des textes du 1er siècle de notre ère. On n'est plus à 20 ans près. L'analyse, ce sont très peu de les textes canoniques ne sont pas véritablement publiés pour l'instant, puisque ce qui est surtout publié, c'est les stances du lac Anavatapta et l'histoire de la corne de rhinocéros. Mais on voit très bien que ce sont des textes qui ont des parallèles dans le canon pali, qui ont des parallèles dans le canon chinois, mais qui ne sont pas des traductions mot à mot ou des équivalents mot à mot de ce que l'on trouve en pali et de ce que l'on trouve en chinois. En d'autres termes, le texte existe, hein, mais il est ouvert. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il est copié ou qu'il est récité, des épisodes changent et des épisodes ne sont... des phrases changent, la place des mots change. C'est-à-dire que nous avons un stade intermédiaire entre la transmission purement orale, ou alors le récitant récite ce qu'il a dans la tête, et les Indiens ne se privent pas, sauf quand il s'agit du Rig Veda, de changer un peu la façon dont il récite les textes, et un canon écrit qui est fixé et qui est fermé. Le premier canon qui est ayant été ainsi fixé est fermé, et étant le canon bouddhique pali, qui semble avoir été mis par écrit au 1er siècle de notre ère, et qui a été dans un grand monastère de Sri Lanka, l'Abhayagiri Vihara, et qui a été immédiatement fixé de la façon dont les Indiens fixent les textes, par des commentaires. D'abord des commentaires en cingalais qui datent du 1er, 2e siècle, puis par le commentaire de Buddha Gosha. Les commentaires indiens, pour ceux qui connaissent un peu ça, reprennent les phrases mot à mot et expliquent chaque mot. Donc quand vous êtes dans un commentaire, vous avez la suite des mots et la suite des phrases qui est assurée. Là, il n'y a pas de commentaire. Et donc, on est au 1er siècle. Et puis, il y a les choses seniors, en voici un, qui posent beaucoup plus de problèmes. Si vous voyez un peu, en plus, les feuilles d'écorce de bouleau sont cousues sur le côté pour empêcher que si les fragments se cassent, pour empêcher qu'ils se déplacent. Parce que les feuilles, alors il y a plusieurs, on a reconnu plusieurs mains, comme on dit, plusieurs scribes dans la première série du British Museum. Dans celle-ci, qui a été étudiée par un Britannique qui est maintenant en Australie, Mark Allen, on a quelque chose de très différent. On a des manuscrits neufs, qui apparemment n'ont jamais servi, écrits par une seule main, donc il y a un seul scribe, et déposés dans un vase. Et c'est là que commencent les problèmes qui ne sont pas toujours vus par nos collègues. Quand vous avez quelque chose comme ça, et que vous avez des petits rouleaux, comme qui manifestement de ce type-là, vous vous demandez comment est-ce qu'on identifie les textes. Alors, on identifie les textes normalement par un colophon. Et on nous explique tout à fait scientifiquement, et probablement que c'est vrai, que le haut du rouleau ou le bas du rouleau portait un colophon et que lorsqu'on trouvait le rouleau sous la forme, bien la première chose qui apparaissait, c'était le colophon qui indique le titre du texte, la collection à laquelle il appartient et très souvent le nom du donateur. Là, tous les colophons ont disparu. Et les colophons n'ont pas existé dans la collection de Signor. Là, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas de colophon. La deuxième question, supposons que ces rouleaux, même de 5 mètres, soient dans un colophon, et est un colophon et que le colophon soit visible, comment est-ce qu'on les range ? On ne va pas les ranger dans un pot où il faut mettre son bras pour piocher dedans et on ne sait pas ce qu'on en sort. On ne va pas renverser le pot pour sortir ces petits rouleaux qui ne sortiraient pas facilement. Donc logiquement, ils ont été placés dans le monastère, ils devaient être placés sur une étagère ou dans une armoire. Les comptes, comme on ne sait pas où ils ont été trouvés, on n'en sait rien, mais on doit supposer une étagère en bois ou une armoire, comme dans les monastères tibétains, ce qui expliquerait qu'on n'en ait trouvé aucune trace dans les monastères bouddhiques jusqu'ici fouillés. Il doit y avoir un ordre quand même. Il doit y avoir un ordre, puisque là, Mark Allen a réussi à montrer que les rouleaux de la collection senior renfermaient une partie d'un ce qu'on appelle un Samyukta Agama, la corbeille des discours qui ont un rapport les uns avec les autres, c'est ce que signifie Samyukta, et qui sont en général petits. Mais ça ne correspond à aucune disposition d'aucun canon connu, même si les textes ont des correspondants en pali et en chinois. Alors, donc, encore une fois, comment est-ce qu'on faisait pour les reconnaître? Et puis, pourquoi est-ce que ces textes se retrouvaient dans un pot ? Alors, la réponse, c'est que ça a été le don d'une personne qui les a mis dans un pot parce que c'est la parole du Bouddha et donc on a fait un stupa là-dessus. Et le pot, on l'a effectivement, c'est un pot malheureusement avec une inscription très effacée, mais que Salomon a réussi à lire. Et la lecture finalement est à peu près possible. Je vais vous indiquer comment ça se fait. Le pot donc ressemble à ça. Si vous voulez en acheter un, vous allez sur n'importe quel marché indien ou pakistanais. Et il y avait un couvercle dessus. Et l'inscription est là. Il dit qu'en l'an 12, il y a eu une fondation par M. Intel. C'est tout. Il y a eu fondation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inscription est reprise ici. En fait, elle est très, très effacée sur... moi, j'ai la photo ici, mais je n'arrive pas à lire une seule ligne. Mais les deux, il y a des problèmes de lecture, il y a des problèmes de syntaxe qui sont assez gênants. Mais enfin, il est clair qu'on est dans l'an 12 et qu'il y a eu une fondation. Et donc, M. Salomon nous dit dans l'an 12... quelqu'un a commandé la copie d'une partie du Samyukta Agama, on a roulé sans rouleau, on l'a mis dans le vase et puis on a fait un stupa dessus probablement. Et l'an 12 étant l'an de Kanishka, si on fait une analyse au carbone 14, eh bien, on aura la date des manuscrits et on en déduira la date de Kanishka. Alors, il y a eu toute une... il y a eu effectivement une analyse au carbone 14 qui donne, selon M. Salomon, entre 130 et 140. Et donc, comme c'est de l'an 12 et de Kanishka, si ça va sur 140, Kanishka est de 125 ou 127. Et les Britanniques ont raison de puis dire depuis un siècle que Kanishka est depuis 125. Il y a un premier problème, c'est que lorsqu'on regarde de près l'analyse au carbone 14 de ces fragments, qui se trouvent de façon bizarre dans l'édition de la collection Skeuyen, à la fin du volume 3 de la collection Skeuyen, où ça n'a pas grand-chose à voir, on s'aperçoit que la date de 130-140, c'est une moyenne, et qu'en fait, il y a 5 dates proposées, et que ça va de 80 à quelque chose comme 320. Ce qui signifie, d'un point de vue archéologique, que la date de 80 peut être aussi vraie que la date de 130 ou de 320. Effectivement, les archéologues savent très bien que lorsqu'on fait des analyses au carbone 14, elles commencent à être vraiment intéressantes que lorsqu'elle dépasse la trentaine ou la quarantaine. Parce que pour calculer une moyenne vraisemblable, il faut avoir énormément d'échantillons. Et pour chacune des fouilles où il y a eu des analyses au carbone 14, on a remarqué cela. Par exemple, si vous prenez les fouilles du Turkménistan, la datation des tombes de Gonour a été rabaissé de 1000 ans lorsqu'on a eu, au lieu de une analyse au carbone 14, lorsqu'on en a eu 25. Même chose pour Harappa. Et pour cette époque ancienne, donc Gonur-Harappa, c'est-à-dire il y a 4000 ans, les analyses sont beaucoup plus fiables que pour des périodes beaucoup plus proches de nous, où le carbone 14 ne donne pas des résultats à l'année proche, sauf malgré ce que prétendent les physiciens qui les font. Donc, le problème du carbone 14, ne donne pas la date de ces manuscrits, qui de toute façon, effectivement, sont des manuscrits de l'époque de Kanishka, ça on le voit très bien, par la paléographie. Mais ça ne résout pas la date de Kanishka, on est au IIe siècle. Et il y a un autre problème, c'est que le couvercle est un couvercle très bizarre. On en a beaucoup à Kara Tepe, où il suffit de voir comment ça se passe dans les maisons indiennes. Un couvercle, c'est une plaque. C'est une plaque horizontale. À Kara Tepe, elles sont décorées sur la surface d'un lotus. Dans la plupart des maisons, c'est un morceau de schiste, une pierre qu'on met dessus. Là, ceux qui veulent voir la photo, je leur montrerai. C'est un bol à boire. C'est un bol à boire. Et on peut donc se demander si ce qui n'a pas... Par ailleurs, à la différence de la première série de manuscrits, les manuscrits, lorsqu'ils ont été apportés au British Museum, étaient dans le pot, mais c'est parce qu'ils y avaient été remis. On avait enlevé les manuscrits, on les avait bien emballés en petits rouleaux, comme des cigarettes, et on les avait remis dedans. Et donc, les restaurateurs et Salomon n'ont vu que les rouleaux emballés. Ils n'ont pas vu l'original. On peut donc se demander si, en fait, le pot qui est censé dater ces manuscrits n'était pas un vase à eau avec un gobelet déposé auprès d'un stupa comme fondation, soit pour faire la puja du stupa qui requiert de l'eau, soit pour soit pour offrir de l'eau aux passants, et qu'ensuite l'antiquaire, ayant ces manuscrits et sachant le sort qui avait été réservé au premier qui était dans un pot, les a mis dans ce pot vide. Donc, on n'est pas sûr du tout d'où ça vient. Vous voyez le problème des fouilles clandestines. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une énigme. M. Allon est incapable de dire pourquoi... Enfin, il le dit très clairement. Hein, je veux dire, c'est pas un reproche qu'on lui fait. Il a étudié les choses. Il a essayé de trouver pourquoi ces manuscrits qui appartiennent à trois parties différentes du Samyuktagama se trouvaient dans ce pot et auraient été déposés dans un stupa, il n'y a rien. Et en particulier, il n'y a pas le texte qui est très souvent en dépôt dans des stupas, le texte qui exprime véritablement la parole du Bouddha, c'est-à-dire le Pratitya Samutpada Sutra, le sutra où le Bouddha explique comment naît le mal et comment on s'en débarrasse. C'est le sutra de la dépendance en 12 sections, si vous voulez le terme exact. Il n'y est pas. On peut aussi se demander, quand on fait un dépôt dans un stupa et qu'on veut y mettre un texte du Dharma représentant la parole du Bouddha, pourquoi on ne fait pas comme tout le monde ? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un pot qui est fragile, qui est grand, qui demande qu'on construise une grosse caisse en pierre tout autour pour le protéger, et qu'on mette je sais plus combien de rouleaux, il y a une trentaine de rouleaux, qu'on mette ces rouleaux dans un stupa, pourquoi on ne fait pas comme tout le monde ? C'est-à-dire on prend une petite boîte, un petit pot en stéatite qui coûte 25 roupies au bazar, qui est rond, c'est la forme ordinaire, et on met dedans un texte essentiel du Dharma qui est en général le Pratitya Samutpada. On rajoute quelques-uns des sept joyaux, on met ou on ne met pas une inscription autour, on le met dans le stupa et il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette chose tout à fait bizarre ? Donc vous voyez que ça pose de grands problèmes, d'une part sur l'origine des manuscrits et surtout sur la façon dont dans les monastères ces collections étaient faites. Parce que là, au IIe siècle, à la différence de ce qui se passe pour les manuscrits, la première série de manuscrits du British Museum, on est à peu près sûr qu'on a une collection, une corbeille, comme disent, pas, enfin, pardon, un agama, un nikaya, disent les gens en pali et un agama en sanskrit, de textes provenant du Samyukta Agama. Nous avons là une fixation, un début de fixation d'un canon, et ce canon ne correspond ni par son ordonnance, ni par son mot à mot, à ce qu'on trouve dans le canon bouddhique pali et à ce qu'on trouve dans les canons chinois. C'est-à-dire que nous avons le témoignage écrit de ce que peut être la constitution peu à peu d'un canon Gandhari. Mais ce canon est ouvert. Ce canon est ouvert, manifestement, il n'est pas encore fixé, il ne correspond à rien de comment, à rien de sûr. Et par ailleurs, moi, je me demande comment on peut lire ces fragments en recto verso, parce que rouler et dérouler, ça ne doit pas être simple. Donc, il y a, sur le plan matériel, beaucoup de problèmes. Sur le plan... comment sur le plan de la fonction, également beaucoup de problèmes, mais sur le plan du contenu, on a des textes tout à fait analogues à ceux qu'on a dans le canon bouddhique pali, ce qui n'est pas le cas des textes du Bajjaur. Alors, les textes du Bajjaur sont arrivés donc à l'Institut d'archéologie de l'Université de Peshawar, ce qui ne les a pas empêchés d'être vendus. Et il y a eu une première collection qui est édité à Berlin par M. Falk, qui est venu ici souvent, et M. Ingo Straur. Et là, on a le Bajjaur. Il faut que je vous explique un peu. Ah, quel, très bien. Le Bajjaur, il faut mettre un A devant le jour, c'est cette région-là. Alors, pour ceux qui ont été dans le coin, vous partez de Peshawar et vous prenez la route de Charsada et vous montez par la passe de Malakand sur la route du Swat, hein, qui est là. Hein. Ça, c'est la vallée du Swat. Et à un moment donné, un peu après le poste de Chakdara où Winston Churchill a été en poste, vous prenez cette rivière. Où est-ce que c'est ? Pardon, vous prenez celle-ci. Hein, vous prenez cette rivière, et puis ici, quand vous êtes un Européen, vous vous arrêtez. Tout ceci, qui est le Bajjaur, est un territoire inconnu. Aucun Européen n'y a mis les pieds. Un seul archéologue y a mis les pieds. Et quand l'armée pakistanaise y va, elle ne revient pas intacte. Hmm ? Donc, c'est un endroit qui, à époque ancienne, vous voyez, l'Afghanistan est là. Hein, ça, c'est la frontière de l'Afghanistan. À époque ancienne, c'était un endroit apparemment plus paisible, puisque on a trouvé des monnaies indo-grecques et la première inscription Karoshti vient du Bajjaur. Donc il y avait des monastères bouddhiques, c'était un peu plus calme. Tout ce que l'on sait, ça viendrait d'un endroit qui est Mian Kili, dans le district de Dir, sur le côté droit de la rivière du Bajjaur, qui est connue comme Roud. Alors déjà, cette indication, c'est assez bizarre, parce que Roud, ça signifie rivière en persan. Bon, alors, ça prouve que... Et puis, ça aurait été trouvé in situ, dans une chambre carrée faite, enfin, une pièce carrée faite de plaques de pierre, comme je vous ai décrit, hein, une plaque de pierre dessous, quatre sur les côtés et une au-dessus. C'est tout à fait comme cela que se trouvent les reliquaires dans les stupas, dans une qui avait à peu près 50 cm de diamètre. Et la chambre était dans une des cellules du monastère. Alors, c'est quand même assez difficile à comprendre, ce qui ne m'étonne pas, mais enfin, il faut imaginer comment se passent les choses. La chambre de pierre, ça se trouve très souvent à la base de stupa, c'est-à-dire vous avez marqué comme si un bon décideur, vous avez un édifice protégé où on met le reliquaire qui ressemble à ça, on met quelques offrandes et puis ensuite on protège ça par une autre dalle de pierre et le résultat, et ensuite vous pouvez accumuler des tonnes de cailloux dessus, ça tient. Et le reliquaire est protégé. Ça se comprend très bien. Dans une cellule de monastère, que vient faire un truc comme ça? Que vient faire... ça n'a aucune raison d'être. On ne met pas dans le sol ou sur le côté du monastère, sur le côté d'une cellule, une chambre de pierre. Alors, ce qui est possible... c'est qu'on est là, en fait, une armoire en pierre. Une armoire en pierre où étaient stockés les textes pour les protéger de la poussière, les protéger de ce qu'on veut. Et encore une fois, là se pose le problème de l'étiquette et nous ne savons pas du tout comment on identifiait les textes ni comment ils étaient rangés. Mais la collection du Bajaour, qui date en... enfin, la première collection du Bajaour, qui est du IIe siècle, sans doute, à la fois par le radiocarbone, mais il y a une seule date, mais moins précise que pour le British Museum, mais c'est du IIe siècle, à la fois par l'écriture et par toutes sortes d'images. Elle contenait 16 textes qui avaient été écrits par 19 mains différentes. Et l'on trouvait là-dedans des sutras comme dans le canon Pali, on trouvait des textes scolastiques, on trouvait des dharani, déjà c'est plus tardif, des fragments du Vinaya et un Akshobhya Vyuha. Et puis un texte laïque, probablement une espèce d'Arthashastra ou de Nitishastra. Alors, comme il est 32, je ne veux pas travailler plus longtemps que... et de vous retenir plus longtemps, eh bien, on continuera ça un peu, mais pas aussi en détail la semaine prochaine. La semaine prochaine, je finirai ça en un quart d'heure, du moins j'espère, et puis ensuite, on reprendra le problème de comment est-ce qu'on reconnaît une statue mahayanique de l'autre, d'une autre qui ne l'est pas. Je vous remercie.